Soyez les bienvenus pour ce deuxième rendez-vous du Club Talent. Sur ce deuxième rendez-vous, l'idée est d'aller peut-être plus loin et de réfléchir sur les attentes des candidats de demain. Et pour cela, je vous présente Marcel Laliberté, qui est Chief Diversity Officer au sein d'HEC. Et Marcel connaît très bien les étudiants et leurs attentes. Elle devrait pouvoir nous donner un éclairage aussi nord-américain. Car il me semble que vous venez de terminer un doctorat dans une grande université américaine. Et j'ai aussi le plaisir de vous présenter Florence Orderne, qui a exercé des fonctions de DRH dans des grandes ONG et surtout des structures d'enseignement supérieur. Avant de rejoindre Axio, Florence était DRH d'HEC, puis de Polytechnique. Donc elle a pu voir l'évolution des candidats sur ces dernières années. Donc, l'idée de ce deuxième rendez-vous, concrètement, hein, c'est venu d'une intuition sur le fait que les candidats que nous recevons aujourd'hui, hein, qui sont des cadres supérieurs, semblent avoir un discours qui est de plus en plus proche de ces jeunes générations qui sortent d'école. Et donc, eux aussi osent poser des questions que nous posaient les générations, la fameuse génération Z, sur le nombre de jours de télétravail, la personnalité de leur futur N+1, etc. Donc, on sent qu'il y a un rapprochement dans les attentes entre ces deux générations. Donc, il nous a semblé voilà, tout simplement intéressant de confronter les points de vue entre les attentes des étudiants et les attentes de ces candidats post-Covid. Donc, j'ai tout de suite envie de poser une première question. Selon vous, quelles sont effectivement les attentes de ces étudiants qui sortent aujourd'hui de ces business schools?
Oui, effectivement, nos étudiants sont en évolution. On voit beaucoup plus d'étudiants qui se lancent en start-up aujourd'hui, beaucoup plus que même il y a 5 ans. Et Florence pourra peut-être confirmer également qu'on voyait dans ces phénomènes-là au niveau des écoles d'ingénieurs, parce qu'ils veulent un peu de cette impression de « c'est tout, tout de suite ». Et quel est l'environnement qui permet de faire tout, tout de suite? C'est quasiment l'environnement de la start-up, parce que tout est à définir.
Effectivement, en tout cas dans les écoles d'ingénieurs, on pousse beaucoup les étudiants à monter des start-up. On les pousse beaucoup là-dessus. Il y a une désaffection des grands groupes et des grandes entreprises. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué dans les entreprises où je suis passée, enfin dans les écoles où je suis passée ou dans les structures dans lesquelles je suis passée, c'est que le rapport s'est inversé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'étudiant qui sort ou le candidat qui arrive sur le marché du travail qui est en position de force et c'est l'entreprise qui doit montrer ce qu'elle peut apporter à l'étudiant et ce qu'elle doit lui donner. Voilà, et elle doit le considérer comme une personne et non pas seulement comme une ressource. Et ça, c'est assez clair quand on recrute, en tout cas moi, quand j'ai recruté ces dernières années, c'est que ce rapport-là s'est inversé. Et en plus, le rapport au temps des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il n'est pas le même que celui qu'avait il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'il faut aller vite, ils sont un peu dans l'immédiateté et donc il faut être capable de s'adapter très vite, d'avoir des process de recrutement qui sont rapides. Il ne faut pas attendre 10 ans, il ne faut pas leur faire voir 15 personnes, il faut leur faire voir des choses très concrètes.
Mais est-ce qu'ils ont d'autres attentes? Est-ce qu'il y a cette notion, on parle beaucoup de quête de sens sur ces jeunes générations, est-ce que c'est tant le cas que cela?
Effectivement, alors après, Marcel, tu peux rebondir sur la quête de sens. Hein. On l'a tous vécu en tant que recruteur, mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent contribuer à des projets, ils veulent être innovants, ils veulent être responsabilisés sur leurs projets. Et ils veulent du sens, évidemment, mais le sens, on peut mettre beaucoup de choses dans le sens. Ils veulent avoir de l'impact, en fait, sur leur environnement en général, et ils veulent que ça se voit. Et sur la partie RSE, ils sont sensibles à cette partie RSE, mais ils veulent que ce soit incarné, pas juste que ce soit écrit sur le site de l'entreprise. Ils veulent voir concrètement ce que ça recouvre et comment eux, ils peuvent participer à ça. Et ils font leur choix d'entreprise aussi par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, un ingénieur qui sort d'une école d'ingénieur, le salaire n'est pas le premier critère pour choisir leur entreprise parce que de toute façon, ils ont beaucoup de propositions à des salaires assez importants. C'est vraiment l'environnement de travail, la RSE, mais aussi tout ce qu'il y a autour, les conditions de travail et la qualité de vie au travail qui est importante. Donc, je pense que ça, il faut pas juste dire qu'on est sur de la RSE, sur du green, sur du développement durable. Il faut le montrer et l'incarner et leur dire comment eux aussi peuvent participer à ça.
Pour compléter ce que Florence dit, je pense que la question, c'est à quoi ça ressemble la RSE pour moi? quand je rentre dans l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et comment je vais pouvoir contribuer par mon engagement. Et c'est ça le lien qui, ou la passerelle qui est importante à faire.
J'ai envie de vous poser une question. Il nous semble observer, notamment sur l'industrie, une attente et en tout cas un intérêt de plus en plus fort des étudiants vis-à-vis de la stratégie RSE des entreprises. Est-ce que vous le mesurez, ça, aujourd'hui?
Ah, bien sûr. C'est une des raisons que l'école, pour le coup, notre école a pris la position de développer deux postes au niveau du développement durable d'un côté et de la diversité de l'autre côté. On croyait fortement que les deux ne pouvaient pas être tout mélangés. Je sais que dans les organisations, il y a une fonction RSE ou que c'est regroupé sous une direction, mais pour l'école, il semblait important de faire la division entre les deux parce qu'on n'arrivait pas à combler les besoins, je dirais, sur ces deux fronts-là. Et on est occupé, je dirais à 150%, mon collègue qui est au développement durable et moi-même sur la diversité, et principalement par nos étudiants. Ce qu'on essaie d'intégrer, c'est cette notion de flexibilité et à marier un peu ce intergénérationnel. Parce que comme on en parlait au début avec Frédéric, cette question de génération, elle est quand même clé aujourd'hui. Et c'est vrai, de l'autre côté d'abord, vous avez certainement vu la signature maintenant sur les engagements pour les plus de 50 ans. Donc, c'est des deux côtés que ça s'opère et le travail que moi je fais aujourd'hui, c'est créer le dialogue entre ces générations-là, avec la dimension, pour le coup, avec HEC, sur le multiculturel.
J'ai une question que j'aimerais vous poser à toutes les deux. Finalement, c'est, voilà, on voit qu'il y a des nouvelles tendances, des nouvelles attentes, et il y a quelque chose qui est venu nous percuter avec cette crise du Covid. Est-ce que côté candidat et côté étudiant, vous avez senti une accélération des tendances. Et qu'est-ce qui a changé entre l'étudiant 2019 et celui d'aujourd'hui? Et la même question pour Florence, entre le candidat de 2019 et le candidat de 2022. En quoi ils sont différents?
Ils veulent aujourd'hui, ils veulent avoir des responsabilités, ils veulent du pouvoir de décision. Ils ont besoin d'un management flexible et des objectifs qui soient clairs. Et quand je dis de la flexibilité, c'est aussi dans leur organisation du travail. Ils veulent des temps collectifs, mais ils veulent leur dire « vous avez 2 jours de télétravail fixe, ça ne leur convient plus ». Ils veulent pouvoir s'organiser, ils veulent travailler en mode projet et s'organiser comme ils veulent dans ce mode projet-là, en étant d'accord pour avoir des moments collectifs. Mais je pense que là-dessus, ils sont très… Le télétravail, c'est presque, pour eux, c'est obligatoire, c'est même plus un sujet. C'est une entreprise qui ne propose pas de télétravail, enfin, ou de travail à distance, peu importe comment on l'appelle, ils n'iront pas. Ils veulent vraiment un management et une organisation du travail qui soit souple et flexible.
Et peut-être une parenthèse, si je peux me permettre, Florence. Effectivement, moi qui suis recruteur comme toi, c'est une vraie surprise de voir un discours de ces cadres, sub qui semblent complètement désinhibés aujourd'hui. Et il y a 3 ans, jamais personne n'aurait osé poser la question du télétravail ou de l'environnement ou de la personnalité de mon futur N+1. Et j'en passe. Aujourd'hui, c'est vraiment un discours complètement désinhibé et qui ressemble à celui, je reviens, mais celui des étudiants qu'on pouvait déjà observer il y a quelques années. Et vous, Marcel, vous avez vu un changement dans ces suite au Covid?
Je dirais que Covid a plutôt agi comme un genre de pause, une cocotte minute. Je ne sais pas comment exprimer, mais les tendances qu'on voyait déjà, ça a juste un peu mis une pause sur la tendance qui s'opérait déjà en 2019. Et à l'inverse, ça nous a permis de voir une genre de plus grande fracture, des inégalités, des différences s'opérer. Et donc, là, les vraies questions sont, est-ce que ça vaut la peine pour moi de travailler pour une organisation quand j'ai tout vu ces divisions avoir lieu? Et donc, c'est ça que ça a un peu amplifié comme phénomène, c'est, là, on a vu des divisions, mais on a vu qu'est-ce qui était capable de se faire. Nous, on a pivoté en moins de 2 semaines, les organisations, tout le monde sur la planète a été capable de pivoter à une vitesse phénoménale. Donc, d'entendre, c'est pas possible. N'est plus possible.